Vous écoutez RTL.
Vous ne trouvez pas étrange que six membres d'une même famille dormant à des étages différents soient tués par balles sans qu'aucun d'entre eux n'ait eu le temps de se lever?
Ces terres rescapées sont rares. C'est le cas de cette île, située au milieu du canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar. Cette île se nomme Europa.
Nous sommes au fond de l'océan Atlantique, dans une zone géographique qui a enfiévré l'imagination de l'homme depuis des siècles. C'est le triangle des Bermudes.
Ce sont d'anciennes mines de phosphate, inconnues des Nanrouans, jusqu'à ce que l'homme dit civilisé les découvre par hasard.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tous ces lieux, vous en avez entendu parler, ils font trembler pour certains. D'autres ont l'air de vrais petits paradis, mais sont de vrais enfers. On est là pour en parler et découvrir ces lieux maudits avec notre invité Olivier Le Carrère. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et navigateur. Pourquoi vous vous passionnez pour ces lieux maudits ?
Ah, c'est pas du tout par intérêt morbide, c'est plus mon expérience de navigateur qui m'a orienté là-dessus. Ça remonte à assez longtemps. Je naviguais justement dans ce fameux triangle des Bermudes, un peu au nord des Bahamas. Et en arrivant là-dedans pour la première fois, j'avais 19 ans à l'époque, j'étais très ému parce que c'était un endroit dont on parlait beaucoup, et je me disais, que va-t-il se passer au premier orage? Je me suis dit, oui, ça y est, c'est un truc spécial.
Vous preniez le risque volontairement?
Pas du tout volontairement. Enfin, si, c'est-à-dire que le bateau sur lequel je naviguais avait une route qui passait par là et que c'était la route logique, donc il aurait été un peu absurde de ne pas la suivre.
Et qu'est-ce qui vous arrive alors quand vous traversez ce triangle des Bermudes ?
En fait, d'abord beaucoup d'émotions parce que ça évoque beaucoup de choses, donc on se sent un petit peu remué parce qu'on pense à tout ce qu'on a raconté sur ce site. Finalement, pour être franc, il ne s'est rien passé de très extraordinaire, à part un très bel orage qui m'a beaucoup impressionné. Et puis j'ai eu ensuite l'occasion de revenir naviguer régulièrement dans cette région. Et ça m'a donné l'envie de creuser un peu la question, que se passait-il vraiment dans cette zone? Est-ce que ce lieu méritait sa réputation? Et de fil en aiguille, disons, tout ce que j'ai appris là-dessus m'a donné aussi envie de m'intéresser à d'autres sites à la réputation sulfureuse et à écrire sur le sujet.
Juste pour finir sur le triangle des Bermudes, qu'est-ce qu'on en disait? Qu'en fait, c'est un endroit où les bateaux disparaissaient, c'est ça, Olivier Le Carrère?
Oui, un peu plus que ça, même les bateaux, les avions. L'origine de la réputation du triangle des Bermudes remonte à la disparition d'une escadrille de 5 chasseurs américains en décembre 1945. Les 5 chasseurs avec les 14 hommes d'équipage ont disparu au large de la Floride. L'hydravion Catalina qui était venu à leur secours ensuite a disparu aussi avec 13 hommes d'équipage. Et puis ensuite, c'est de là qu'est partie toute l'histoire. Et après, il y a eu un certain nombre d'autres accidents. On s'est mis aussi à repenser à des accidents antérieurs. Et le vrai point de démarrage de la médiatisation de cette zone, ça a été un article publié par un journaliste américain en 64 qui a pour la première fois parlé du mystère du triangle des Bermudes.
Et c'était parti.
Alors Olivier Le Carrère, vous recensez ces lieux maudits dans un atlas qui est publié aux éditions Artaud. Il y en a plus en mer que sur terre, ou c'est partagé?
C'est très partagé en fait. Je pense qu'il y en a au moins, j'ai pas fait le compte précisément, mais il y en a au moins autant sur terre qu'en mer, oui. Mais c'est vrai que la mer est un terrain assez privilégié pour ce genre de choses, parce que la mer est par définition, le voyage en mer est par définition toujours un peu incertain, dépendant de beaucoup de facteurs extérieurs, et les marins ont toujours été assez sensibles à tout ce qui était superstition, légendes, etc. Ils sont très chatouilleux sur ce point.
Et vous vous êtes rendu dans tous ces lieux, ou la majorité d'entre eux, pour les tester?
La majorité d'entre eux, oui.
Tout seul ou avec des copains qui ont très envie de partir en vacances avec vous, du coup?
Ça a été très varié. En fait, ce ne sont pas des déplacements que j'avais programmés spécialement sur ce thème, et c'est au fil des voyages. Donc, comme je vous disais, on est parti du triangle des Bermudes, et puis après, Après, il y a eu plein d'autres endroits que j'ai parcourus au fil de voyage pour d'autres raisons et qui se sont ajoutés à ça et qui ont formé, disons, tout le fond de ça. Et puis, il y a quelques endroits, effectivement, que je ne connaissais pas moi-même et que je voulais vraiment ajouter parce qu'ils me semblaient représentatifs.
Bah alors, par exemple, commençons notre voyage macabre en votre compagnie, Olivier Le Carrère. Un lieu en France, les falaises d'Ault, c'est ça ?
Oui, Ault. Oui.
Elles sont maudites. Pourquoi ? Déjà, c'est où ?
Oui.
Et pourquoi elles sont maudites ?
Alors, c'est en Picardie, dans le département de la Somme. Et en fait, c'est un petit bourg qui est absolument charmant, qui est perché sur une falaise au bord de la mer. Et alors, ce bourg a un problème qui remonte à plusieurs siècles, mais qui est extrêmement présent toujours maintenant. C'est que il est soumis à une érosion terrible de la mer, et ça ne date pas d'hier, puisque c'est un endroit donc qui avait déjà au XVIe siècle, qui avait un port assez florissant. Et son port a été complètement emporté par la mer. Tout le bourg a été inondé à la fin du XVIe siècle. Les gens à l'époque se sont repliés un petit peu à l'intérieur des terres, puis après sont revenus sur la partie littorale. Le port, il y a des activités qui se sont développées à nouveau.
Cette ville ne devait pas exister, c'est ça ? Comme s'il ne devait pas y avoir de port à cet endroit-là ? Je suis un peu mystique, moi aussi.
Oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un terrain qui est très exposé, et puis dans lequel la falaise, le terrain ne cesse de reculer. C'est un endroit où le trait de côte, la limite du littoral, a perdu une centaine de mètres déjà. Donc, et si vous voulez, aujourd'hui, il y a une partie des maisons qui sont en situation dangereuse parce qu'elles sont à la limite de s'effondrer. La falaise est grignotée année après année inexorablement, et c'est un vrai drame pour les gens qui habitent là.
On reste en France, la synagogue de Satan, c'est où ça ?
Alors ça, c'est ainsi qu'on surnomme, d'une façon, il faut bien le dire, pas très appropriée, le château de Montségur. Château de Montségur, donc dans le grand sud de la France, près de la chaîne des Pyrénées. Et c'est dans ce château de Montségur que s'était réfugié au XIIIe siècle une partie des derniers cathares de France, les derniers adeptes de la religion cathare, qui étaient évidemment jugés hérétiques par l'Église catholique à l'époque.
Mmh. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Et alors, il s'était réfugié dans ce château qui est perché sur une éminence. C'est un site extraordinaire qui est très émouvant à voir, même si le château qu'on voit aujourd'hui n'est pas exactement le même que celui de l'époque. Et donc, ils ont été assiégés par les troupes du roi de France. Ils ont fini par être obligés de se rendre, et ne voulant pas abjurer leur foi, ils ont tous été brûlés, ils ont tous été menés au bûcher.
Donc en fait, ils hantent aujourd'hui ce château ?
Alors, ils hantent, c'est peut-être un peu rapide de le dire, mais en tout cas, il règne, on dit beaucoup de choses sur ce château, oui.
Il fait peur. On quitte la France dans un instant pour découvrir la forêt des suicides.
Ah, chouette.
Le mausolée maléfique.
Génial.
Et le lagon empoisonné.
Vous venez
quand même tout
d'un.
Mais vous êtes formidable et courageux surtout. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce soir, donc, on voyage en enfer, et pourtant on reste bien sur Terre avec Olivier Le Carrère, journaliste, navigateur, qui a répertorié les 40 lieux sur la planète qui font froid dans le dos pour cet atlas des lieux maudits publié chez Artaud. Alors, comme promis, drôle de promesse, direction le Japon et la forêt des suicides. Où se trouve-t-elle ?
Alors, c'est une forêt tout à fait étonnante qui est située au pied du mont Fuji. Et c'est une petite forêt, elle s'étend sur tout juste 2 km de long, mais elle est très dense, très sombre. Elle a cette particularité d'être un rendez-vous très prisé des candidats au suicide, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de gens qui se suicident là chaque année.
Chaque année ?
Voilà. Et alors c'est très très mystérieux. On dit beaucoup que l'origine de tout ça remonte à un... un livre à succès qui s'appelait La Pagode, d'un auteur japonais, qui est paru en 1960 et dans lequel les héros se suicidaient dans cet endroit précisément, et du coup ça a donné des idées à d'autres.
C'est presque alors, romantique, c'est ça, c'est pour se mettre dans une lignée de...
Sans doute, et alors il n'y a pas que les suicidés qui trouvent leur malheur en cet endroit, puisqu'il y a visiblement des gens qui s'égarent, qui vont par curiosité voir ce lieu et qui s'égarent, et que comme la forêt est particulièrement impénétrable, c'est au point qu'il y a des volontaires de la région qui ont créé des associations et qui vont régulièrement faire du quadriller la forêt pour essayer de secourir des gens perdus, et qui au passage ramassent les corps des suicidés.
Il y a une question qui me vient et qui rejoint un thème qui me tient à cœur, la médiatisation, parce que j'ai une émission là-dessus sur France 5. Est-ce qu'il y a une part d'accélération dans ces phénomènes-là à cause des médias? Vous parliez tout à l'heure du triangle des Bermudes, du premier article qui utilise ce terme. Là, par exemple, au Japon, c'est la même chose. Il y a des journalistes qui ont commencé à en parler, et donc des gens qui vont dans cet endroit-là.
Oui, bien sûr, ça c'est incontestable. C'est-à-dire que ça, un peu comme le Golden Gate Bridge à San Francisco, qui est un lieu très où on se suicide beaucoup aussi, le fait qu'on en parle fait que ça devient effectivement une cible, enfin disons un spot, si on peut dire, privilégié pour les candidats au suicide.
Alors on quitte le Japon, on remonte sur votre bateau, à bord de votre bateau, Olivier Lecarrière, vous êtes navigateur et journaliste. On descend vers l'Australie, où il serait mieux selon vous d'éviter le Cap York. Pourquoi ?
Eh bien, écoutez, c'est très mitigé là-dessus. Enfin, je suis très partagé parce que c'est un endroit absolument paradisiaque. Et c'est en
cela
qu'il est extraordinaire, parce que c'est une région, à l'extrême nord de l'Australie, à l'extrême nord du Queensland. C'est un endroit absolument superbe, une nature splendide, des plages belles comme tout, une eau turquoise, et on prendrait ça comme le paradis sans hésiter, sauf qu'il y a une faune particulièrement, disons, peu accueillante. C'est-à-dire que vous avez envie de plonger dans cette belle eau turquoise. Bon, vous risquez de faire connaissance avec ce qu'on appelle là-bas les saltis, qui sont des crocodiles d'eau de mer, et qui ont la particularité d'être beaucoup plus gros et beaucoup plus agressifs que les crocodiles classiques.
Et bienvenue aux crocodiles.
Alors, il y a quand on a le sens de l'humour, on peut considérer qu'il y a au moins un point positif dans la présence des saltis. C'est qu'il y a aussi dans le coin, dans cette mer, beaucoup de requins taureaux et de requins blancs très agressifs, et que le salty aime s'attaquer aux requins, et généralement il a le dessus, donc ça fait déjà ça de moins.
Donc le Cap York australien, enfin c'est même pas touristique quoi.
Il faut rester sur le bateau.
Si, c'est absolument superbe, ça vaut le coup d'y aller, mais c'est très inquiétant. Et en dehors de ces grosses bêtes, vous avez aussi en mer deux types de méduses mortelles qui sont absolument redoutables et qui ont le bon goût de sévir précisément au moment de l'été austral, quand vous avez vraiment envie de vous baigner. Et pour ce qui est de la fréquentation à terre, on compte dans ce coin 8 des 10 espèces de serpents les plus dangereux de la planète.
C'est des vacances un peu roots, quoi.
Bienvenue au Cap York
Australie. Mais
oui, on y va tout de suite. Et à propos des requins et des méduses, on disait ici même que les méduses faisaient plus de morts chaque année que les requins sur la planète.
Oui, c'est intéressant
de le rappeler. Compliqué. Là, de toute façon, ils se font bouffer par des crocodiles, donc c'est réglé. L'Inde a aussi son territoire maudit, Olivier Lecarrière. Bienvenue à Jharkhand. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. On est au nord-est du pays. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Alors, c'est effectivement dans le nord-est du pays, dans l'état de Jharkhand. Et alors, il se trouve que c'est une région minière. Il y a des mines de charbon un peu partout, souterraines. Et le problème local, c'est que ces mines sont en combustion depuis déjà très longtemps, et que personne ne sait comment éteindre ça. C'est-à-dire que le charbon est tout simplement en train de se consumer, et Et ce foyer s'étend un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui habitent là, qui sont concernés par le problème, et personne ne sait comment le résoudre. Ça se manifeste comment ? C'est-à-dire que vous avez sous votre maison une température de 50 degrés au sol, des fissures qui se produisent plus ou moins importantes, au point que la maison peut finir par tomber dedans. C'est absolument, ça a fini par devenir inhabitable et le foyer ne cesse de s'étendre. Alors,
les Indiens y voient une manifestation du malin ou ça a une explication rationnelle et ça en reste là.
Hélas, alors on peut penser beaucoup de choses là-dessus et il y a effectivement toutes sortes de légendes plus ou moins naturelles qui courent là-dessus. En réalité, ça a une explication très rationnelle. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien et qui ne se produit pas que là. Là, comme c'est une zone très habitée, c'est un problème dramatique. On a essayé de résoudre la question en ouvrant les puits à ciel ouvert pour les contrôler plus facilement, mais ça a favorisé l'extension du feu à d'autres galeries avec des apports d'air. Enfin, c'est un truc insoluble
et c'est l'enfer.
C'est l'enfer, qu'on peut le dire.
Justement,
vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Des lieux qui défient la logique et qui restent inexpliqués.
RTL.
Des lieux fertiles en phénomènes insondables.
Jusqu'à 22h.
Le mystère entourant ces sites nous hante et nous confond.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous offre ce soir un tour du monde passionnant, un tour du monde qui fait frissonner. Parmi les destinations maudites que vous avez sélectionnées, vous, le navigateur Olivier Lecarrère, il y a les faux paradis. Alors là, nous sommes aux Maldives, eau turquoise, îles, bancs de sable. Et au milieu, Tilafushi, c'est quoi ?
Alors Tilafushi, c'est une île dans laquelle on n'a pas envie de passer ses vacances. Rien de vraiment terrifiant, mais simplement un constat assez consternant. C'est comme vous l'avez dit, toute cette région, là, les 26 atolls des Maldives, sont des endroits absolument merveilleux.
Vous y êtes allé ?
Sauf que oui,
quelle
absolument.
Chance.
Et ce sont des endroits passionnants, sauf que, comme je l'explique, le paradis c'est très beau, mais il faut quand même quelqu'un pour descendre les poubelles.
Pour l'entretenir, c'est ça?
Voilà. Et alors, sachant que la population a beaucoup augmenté dans ce très bel archipel, en raison du tourisme, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, disons, il y a 400 000 Maldiviens et qui vivent là en permanence. Et 800 000 touristes qui passent chaque année, sachant que un Maldivien produit 700 grammes de déchets par jour et qu'un touriste en produit 7 à 8 kilos.
10 fois plus.
Voilà.
Ça,
il faut bien caser tout ça quelque part. Et comme ils ne sont pas du tout équipés en moyens appropriés pour ça, ils ont eu l'idée de mettre d'entasser tout sur un petit îlot qui est pas loin de la capitale malais.
Donc il y a une île poubelle, c'est ça que vous dites ?
Il y a une île poubelle, voilà, c'est exactement ça. Tilafushi est une île poubelle. Et le problème, c'est que d'une part, c'est un mode de traitement un peu bizarre et qu'elle ne suffit pas à absorber tout, c'est-à-dire que ça déborde de partout. On essaye de brûler ça, mais les fumées partent tous azimuts vers l'île capitale. Ça déborde dans le lagon, les produits plus ou moins toxiques se déversent dans le lagon et c'est une catastrophe. Il y a 300 tonnes de déchets qui partent chaque jour sur ce petit îlot et qui ne suffit pas à absorber tout ça. Et là encore, c'est un problème, ça paraît vraiment dommage d'en parler parce que l'endroit est superbe, mais c'est un problème qui semble pour l'instant quasi insoluble, sauf à mettre en place des méthodes qui ne sont pas encore d'actualité là-bas.
Autre lieu qui pourrait faire rêver, l'île Europa, on est au cœur de la mer du Mozambique, entre l'Afrique et et Madagascar. Alors pourtant, cette île, Olivier Le Carrère, elle refuse de se laisser habiter, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est une île, si vous cherchez une villégiature paisible, c'est une bonne destination, puisqu'il n'y a quasiment pas un chat sur place. Au fil des deux derniers siècles, il y a eu plusieurs tentatives de gens qui se sont laissés tenter par l'espoir d'une vie meilleure, s'installer sur cette île. Et à chaque fois, en fait, ça a raté. Ça a raté de façon tragique. Il y a soit les gens se sont noyés en essayant de repartir de l'île après en avoir été complètement dégoûtés, parce que c'est une île invivable, il n'y a pas d'eau douce, c'est quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit, donc ils en repartent et souvent ils n'ont pas réussi à revenir, ou alors ils se sont entretués sur place, ce qui est arrivé à une autre équipe, et il reste un facteur pour ceux qui seraient encore tentés par l'aventure, même avec des moyens plus modernes, de désalinisateurs et tout, il reste encore un élément particulièrement dissuasif, c'est un des endroits où on trouve le plus de moustiques au mètre carré, c'est-à-dire que à la tombée de la nuit, l'île est envahie par des nuages et c'est absolument impossible de rester sur place.
Bon alors, on continue la liste, hein, des îles paradisiaques à éviter. Il y a donc Tilafushi, c'est pas un menu du restaurant japonais. Hein. Tilafushi, c'est aux Maldives. Il y a l'île Europa, t'as pas fait rire celle-là, au cœur de la mer du Mozambique. Et puis on continue avec les îles cauchemardesques, l'île de sable.
Oh, je vais vous abandonner là-bas, moi, sur l'île de sable.
C'est où l'île de sable? Avec mes blagues pourries. C'est où l'île de sable, Olivier Le Carrère?
Alors, l'île de Sable, c'est dans l'Atlantique Nord, tout près de la côte américaine, près de la Nouvelle-Écosse. Et c'est une île qui a une réputation épouvantable, parce que comme son nom l'indique, c'est une île sablonneuse, donc très peu élevée sur l'eau, qui est placée à peu près un jour de navigation des grands ports de la côte est, et plus particulièrement d'Halifax, qui est le grand port de la côte nord-est américaine. Et donc, ce qui s'est passé très souvent, c'est que les bateaux qui faisaient la traversée de l'Atlantique, paquebots, cargos, arrivaient dessus, ne la voyaient pas, d'autant que les conditions sont souvent très mauvaises, mauvais temps, brume dans cette région, qui est particulièrement riante, disons. Et donc, il y a eu un nombre de naufrages sur cette île absolument incalculable, qui a décidé les autorités à installer sans cesse de nouveaux phares, des installations de sauvetage. Mais en fait, ces naufrages ont pratiquement continué jusqu'à maintenant, ou à l'ère du GPS. On a théoriquement plus de problèmes, et il n'y a plus aujourd'hui que les vraiment maladroits qu'ils font exprès pour se planter sur cette île.
Pour maintenir la légende, c'est ça?
Exactement. Et ouais. Alors, il y avait en plus un élément particulièrement qui marquait beaucoup les esprits là-bas, c'est que cette île sablonneuse et battue par les vagues avait tendance à ensevelir les épaves, c'est-à-dire que les épaves disparaissaient petit à petit, brisées par le flot et ensevelies dans le sable, et c'était quelque chose qui faisait effectivement beaucoup parler. Ouais.
Des villes, des villages, des îles où il ne fait pas bon vivre, on en parle depuis tout à l'heure, et il y en a encore à découvrir. On continue notre périple effroyable sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et on continue notre balade sympathique, joyeuse, riante, sur le versant noir et obscur du monde, puisque c'est un voyageur, un navigateur, Olivier Le Carrère, qui nous fait découvrir dans cet atlas des lieux maudits, publié chez Artaud, des lieux en mer, sur terre, sur lesquels il ne fait pas très bon vivre. Olivier Le Carrère, dans votre livre, vous racontez l'histoire fascinante du triangle du Nevada. Ça commence comment? Par un accident d'avion, c'est ça?
Oui, le triangle du Nevada est une très très grande zone entre Californie et Nevada, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, avec l'accident du milliardaire américain Steve Fawcett, qui s'est écrasé avec son petit avion au milieu de cette zone. Mmh. Et qu'on n'a jamais retrouvé, au moins dans un premier temps.
Ça se passe en septembre 2007.
Voilà, l'accident. Ça se passe en 2007, et c'est simplement un an après qu'un randonneur va tomber sur des traces de lui. Et on a fini par retrouver son avion et ses restes. Il s'était écrasé là et personne n'avait pu le retrouver.
Pourtant, il y avait eu énormément de moyens, si je me souviens bien, déployés pour le retrouver.
Absolument, des moyens absolument uniques, parce que sa famille avait vraiment mis tout ce qu'il fallait pour essayer de le retrouver. Mais c'est quelque chose qu'on comprend très bien quand on connaît la zone. Moi, je me suis beaucoup baladé dans ce secteur, et c'est un endroit très majestueux et inquiétant, c'est-à-dire que c'est un gros massif montagneux avec très peu de routes, très boisé, très très dense. On imagine très bien que quand on se perd là-dedans, personne ne viendra vous chercher. C'est grand comme un plus grand qu'un département français, mais avec rien du tout, quoi. Ouais. Pas de voie de communication.
Mais pourquoi ça, un accident d'avion, même avec un milliardaire, ça en fait pas un lieu maudit? Pourquoi ce triangle du Nevada est-il un lieu maudit?
Eh bien, si, parce que à ce moment-là, on s'est avisé qu'il y avait eu beaucoup d'accidents d'avion, beaucoup de disparitions d'avions dans cette zone. On s'est avisé aussi qu'il y avait au milieu de cette zone une base américaine de l'US Air Force top secret, dans laquelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale on testait des prototypes d'avions. Et que...
Donc on doit avoir beaucoup d'ovnis dans cette région, j'imagine.
Voilà, et on a commencé, on dit beaucoup qu'on s'occupe d'ovnis, qu'on stocke dans cette base des engins bizarres, des ovnis, qu'il y aura un département qui s'occupe des extraterrestres là. Et du coup, ça a vraiment enflammé les imaginations. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre, comme je disais, puisque c'est vraiment une zone assez impénétrable. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que on est à deux pas de Las Vegas, on est à deux pas des lumières de la ville, et là on est dans un coin qui est complètement perdu, où on a l'impression que tout peut se passer.
Autre endroit effroyable, on reste aux États-Unis, Amityville. Vous le surnommez cet endroit l'antre du démon. Nous sommes où précisément et qu'est-ce qu'il se passe dans cet antre du démon?
Alors, c'est une maison très célèbre puisqu'elle a donné lieu à... Enfin, l'histoire a été racontée dans un livre, un best-seller, puis dans un film à succès aussi. Alors, ça se passe à Long Island, tout près de New York. Et ça a comme base une histoire tout à fait vraie, c'est-à-dire que dans cette maison, en 74, il y a eu un meurtre affreux, un adolescent qui a tué ses parents et ses quatre frères et sœurs, et qui a expliqué à la police qu'il avait entendu une voix dans la maison qui lui disait de faire cela. Toujours est-il qu'un an après, un couple d'Américains achète quand même la maison et va l'occuper exactement 28 jours. Et au bout de 28 jours, ce couple s'enfuit terrifié en expliquant qu'ils ont vécu des trucs affreux, des tas de choses qui se passaient dans la maison,
des bruits, des voix,
des phénomènes des choses qui suintaient des murs, des bruits de pas partout. Et puis ça avait commencé dès l'entrée dans la maison avec des voix qui criaient « va-t'en ». Et c'est à ce moment-là qu'on s'est avisé du fait que cette maison était réputée installée sur des sépultures d'Indiens Montauquet. On a envisagé des tas de choses, mais on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé.
Elle existe toujours, cette maison ?
Cette maison existe toujours. Absolument. Ouais. Alors, il ne faut pas la confondre avec la maison du film, parce que la maison qu'on voit dans le film, en réalité, n'est pas du tout là. Elle est à Tom Rivers, à une centaine de kilomètres de là, dans le New Jersey.
Mais la vraie maison,
la vraie maison où se sont produites toutes ces histoires, elle est habitée. Les habitants sont très contents, sauf qu'ils sont très dérangés par les touristes.
Ah ben oui.
Olivier Le Carrère, est-ce qu'il y a... Vous avez donc sillonné la planète à la recherche de ces lieux maudits pour cet atlas. Est-ce qu'il y a un lieu pour lequel vous vous dites, quand même, là, j'ai pas d'explication, ça m'intrigue?
Oui, j'ai un faible particulièrement pour le phare d'Ilian More en Écosse, dans les îles, dans les Hébrides extérieures. C'est une histoire tout à fait étonnante. Ça s'est passé en 1900. Au retour des États-Unis, un navire manque de se jeter sur les rochers parce que le phare est éteint. À ce moment-là, les autorités écossaises envoient une équipe pour voir ce qui se passe sur le phare et constatent que les trois gardiens de phare sont absents. Et sans raison, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et l'affaire se complique quand on lit le journal de bord de ces gardiens de phare, et où ils expliquent des choses absolument incohérentes. Ils expliquent que le 12 décembre, ça se passait donc le 12 décembre 1900. Ils se plaignent d'un temps épouvantable, une tempête comme ils n'en ont jamais vu jusque-là. Le 13 décembre, le journal de bord indique que l'un d'eux s'est mis à pleurer, que tous trois se mettent à prier parce qu'il fait toujours un temps épouvantable. Et là, consternation et surprise, parce que tout le monde sait qu'il a fait parfaitement beau pendant tous ces jours-là, et on ne sait pas ce qu'il est advenu exactement de ces trois gardiens qui étaient très expérimentés et qui ont visiblement raconté n'importe quoi. C'est une histoire qui m'émeut parce qu'elle reste parfaitement inexpliquée.
Merci infiniment, Olivier. Merci. Le Carré. Je rappelle que vous publiez l'Atlas des lieux maudits. On en a fait un beau tour ce soir aux éditions Artaud. Merci à vous.
Vous écoutez RTL.